Deux belles grandes chansons d'amour et je suis contente parce que Catherine Dumas, présidente et cofondatrice de Nolu, bonjour Madame Dumas.
Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui à cette émission.
Ça nous fait très plaisir, vous nous disiez que cette chanson-là était une de vos chansons préférées d'amour.
Oh, absolument, quelle beauté, quelle tendresse.
C'est vrai.
Qui ne peut pas succomber.
Oui, je suis bien d'accord et la personne qui vous accompagne, il s'agit de Daniel Gonzalez qui est sexologue et qui aussi collabore chez Nolu en tant que formateur, vous nous disiez que cette chanson de Francis Cabrel était traduite dans plusieurs langues.
Oui, ça allait venir me chercher là, justement parce que je l'ai déjà entendu là, en espagnol, en anglais.
Ça doit être beau aussi, hein?
Oui.
Toujours chanté par Francis Cabrel?
Non, pas, mais par exemple, Shakira aussi, là, elle a.
Oui, c'est vrai, Shakira. Oui, je l'entends dans ma tête, là.
Oui.
Alors, bienvenue à vous deux.
Ben, merci beaucoup.
Est-ce que je vous ai présenté. En bonne et due forme, là, Catherine Dumas, présidente et cofondatrice de Nolu. Et comme je le disais, Daniel Gonzalez, sexologue. Vous êtes sexologue dans un hôpital?
Oui, en fait, je suis sexologue au CIUS, dans le réseau de la santé et services sociaux, particulièrement dans les contextes de la réadaptation physique.
D'accord. Donc, les personnes en situation de handicap,
exactement.
Vous les connaissez
on est en plein
bien.
C'est ça.
Et personne ne devrait être laissé sans amour. C'est la philosophie de la plateforme Nolu. Nolu pour No One Left Unloved. Et de son application de rencontre destinée aux personnes, justement, ayant un handicap. Je vais commencer avec vous, Mme Dumas. Vous êtes une femme issue du monde des affaires. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'œuvrer chez Nolu?
En fait, je pense que j'étais prédestinée à le faire, premièrement avec mon expérience de vie qui m'a amenée éventuellement à travailler dans une compagnie qui a acheté un site très connu au Québec, qui était Québec Rencontre, et ce n'était pas du tout ma destinée de comprendre cette industrie-là, mais ça m'a amené justement à développer une compréhension de cette industrie. Et quand j'ai rencontré le cofondateur François Rochon, ça m'a complètement interpellée. Et ça m'a pris un certain temps avant de comprendre pourquoi, mais moi, j'ai grandi avec un père qui avait un handicap. Mon père est né et a eu la polio à 2 ans. Donc, il a fallu qu'il réapprenne à marcher et ça ne l'a pas empêché d'être un homme d'envergure qui était un des premiers réalisateurs Radio-Canada. Et je me suis rendu compte que cette passion-là que j'avais justement pour l'inclusion, la diversité, bien, j'étais tombée dedans quand j'étais petite, littéralement. Alors, j'ai fait quelques recherches au départ et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide et un manque total en considération des services offerts aux personnes en situation de handicap. Et on s'est lancé dans l'aventure et on a fait beaucoup de chemin depuis 2020. Qui était...
Donc, ça fait 4 ans que Nolu existe?
Bien, en fait, on a lancé l'application En fait, on a lancé le projet en 2020 avec une campagne de sociofinancement qui nous a fait connaître auprès des membres, des associations, de la presse, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un engouement pour ce qu'on faisait. Et là, bien, le chemin a continué. Et on a fait beaucoup de chemin, justement, depuis le rêve de son cofondateur, M. François Rochon, qui, lui, rêvait d'un site de rencontre.
Parce que lui-même vit avec une situation particulière, là. Il a la sclérose en plaques
c'est
et
ça.
Il trouvait difficile de rencontrer l'âme sœur.
Absolument, ça a vraiment eu un impact majeur sur les possibilités même, l'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un, fonder une famille, avoir des enfants, vivre une relation amoureuse à long terme. Donc, il a voulu toute sa vie chercher un endroit où son handicap, sa situation de handicap n'était pas un handicap à sa vie amoureuse. Mm-hmm. Et il a toujours été très déçu. Donc, c'était son rêve d'avoir un site de rencontre. Mais aujourd'hui, Nolu, c'est, je dirais, un écosystème.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs, pas catégories,
volets.
Mais volets, oui, c'est ça.
C'est ça, exactement. Donc, c'est un écosystème de services et produits. Dont la mission première est la promotion de l'inclusion émotionnelle. Donc, on a un regard beaucoup plus large sur ce que ça prend pour une personne en situation de handicap d'avoir accès à la vie affective, amoureuse et intime. Et ça ne se résume pas à une application de rencontre, mais ça prend une application de rencontre. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici. C'est qu'en fait, on a lancé une application entièrement développée pour les besoins des personnes en situation de handicap et qui correspond à ce que notre philosophie de vie, c'est oui, no one left on love, mais c'est aussi le pour, par et avec les personnes en situation de handicap. Parce
pour, que par et avec.
On fait l'application de rencontre est pour ces personnes-là. Elle a été montée et développée par des personnes en situation de handicap et on travaille avec, ensemble. C'est un travail qui fait en sorte que tout le monde y participe et on a la voix VOIX de toutes les parties prenantes dans ce qu'on fait.
Et avant la naissance de Nolu, est-ce que vous connaissiez M. Rochon? Comment la
non,
rencontre s'est faite?
Non, en fait, c'est tout à fait... C'est quelqu'un avec qui il avait à plusieurs reprises parlé de son rêve et lui disant... c'est quelqu'un qui est une... on dit un matchmaker, en bon français, qu'il utilisait depuis, tu sais, qu'il avait côtoyé, puis il disait tout le temps, ça te tente pas, toi, de partir ça, puis finalement, c'était pas sa destinée à elle, mais à un moment donné, elle a dit, ah oui, je connais quelqu'un, puis elle me l'a présenté, puis dès la première rencontre, François vous dira qu'il a eu le coup de foudre professionnel.
Ah oui, un coup de foudre professionnel. Est-ce que ça a été un coup de foudre professionnel entre vous et Daniel?
Absolument. En fait, Daniel amène vraiment une connaissance et un regard sur justement sa profession en lien avec les personnes en situation de handicap.
Donc, oui, parce que Daniel, vous les connaissez bien. En tant que sexologue, vous les rencontrez quoi au quotidien?
Je les rencontre à tous les jours. En fait, mon rôle comme sexologue en milieu hospitalier étant de favoriser la réintégration sociale, la réadaptation de ces personnes-là. Mm-hmm. Puis une de mes préoccupations, de toujours se dire que la sexualité fait partie du domaine, justement, de la participation sociale. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir amener ce message-là un petit peu partout, de comprendre la sexualité aussi comme une dimension qui appartient aux activités du quotidien. On ne parle pas juste de la chambre à coucher, alors... C'est pour ça que je suis comme branchée là, toujours à cette thématique-là.
Mais les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont en train de réapprendre, parce que vous êtes en réadaptation, réapprendre à vivre autrement, oui. Est-ce qu'ils sont ouverts à parler de leur vie sexuelle? Est-ce que c'est un sujet qui est facile d'approche? Comment vous en discutez avec les personnes en situation de handicap de cet aspect de leur vie?
Ouais, c'est une question très intéressante parce que ce qu'on réalise en fait en milieu hospitalier, c'est que ce n'est pas tant la personne qui a de la difficulté à parler de sexualité, mais plutôt les professionnels qui n'ont pas les outils, les langages.
Mais pas les sexologues?
Pas les sexologues, non. Ça, on est bien équipés. Mais c'est plutôt les personnes qui travaillent avec moi. Donc, par exemple...
L'infirmière, un médecin.
Les infirmières, les médecins, les ergothérapeutes.
Oui, oui.
Ça demande souvent, mais comment on fait pour introduire ces sujets-là?
Auprès des personnes en particulier?
Auprès des patients. Okay. Comment j'ai fait pour
handicapé
demander...
Handicapé ou pas handicapé?
Exactement. Donc, parce que les gens ont parfois peur d'ouvrir une porte qui viennent avec plein de questions dont ils ne sauront pas quoi répondre. Donc, c'est surtout ça. Après, avec mes patients, je vais... on commence souvent avec des interventions plus globales. Pour ensuite aller vers des questionnements plus ponctuels qui va toucher, bien évidemment, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Est-ce que ça vous intéresse de rencontrer quelqu'un, d'avoir un partenaire, que ce soit pour avoir des expériences affectives, sexuelles, relationnelles? C'est ça.
Alors, Madame Dumas, pourquoi vous avez fait appel à Daniel? C'est pour justement qu'il donne des formations auprès des professionnels
exactement,
qui sont mal à l'aise ou qui n'ont pas d'outils?
Oui, bien, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte que pour les personnes en situation de handicap, il y a énormément de tabous face à la sexualité. Des personnes en situation de handicap, on les voit souvent comme des personnes asexuées. L'entourage, toutes les parties prenantes, ça peut être les familles, ça peut être les intervenants, ça peut être les professionnels de la santé, ont... déjà des préjugés face à la sexualité des personnes en situation de handicap et très, très peu de moyens pour y répondre. Et c'est un peu un sujet, où travaille Daniel, ils sont privilégiés d'avoir Daniel, mais ce n'est pas tous les établissements, ce n'est pas toutes les institutions qui ont des sexologues
à l'aise
et attitrés. Et je vous dirais plus que ça. Quand on a commencé en 2020 sur un programme de 3 ans au bac pour les sexologues, il ne passait pas un an, une heure, c'est-à-dire sur les problématiques des personnes en situation de handicap. Donc, on peut avoir une formation de sexologue, mais quand on vient à poser la question à une personne en situation de handicap, on s'est rendu compte que les sexologues étaient aussi mal équipés que l'ensemble des professionnels.
Et pourtant, les personnes handicapées, il y en a.
Effectivement, il y en a. Mais il y en a, c'est sûr, c'est 20 % de la population, 20%. Si ce n'est pas plus. 20% à travers toutes les statistiques sondages à travers le monde. On est sur le bord de dépasser le 2 billion. C'est 2 milliards sur la planète.
Alors, on
ne
comprend
planète.
Pas pourquoi on les a oubliés.
Exactement. Mais il y a une échelle de Maslow pour les gens normaux, puis on se rend compte qu'il y a une échelle de Maslow pour les gens en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on voit leurs besoins primaires. Hein? Moi, j'ai des gens avec qui je travaille, il y en a un qui me dit, écoute, une fois qu'on est lavé, nourri, nous, on s'est occupé de nous.
Ouais, exactement.
Et c'est vraiment malheureux parce que c'est complètement à l'encontre des droits civiques. Il y a une convention des droits des personnes en situation de handicap dans laquelle les droits à la vie affective sont enchâssés et doivent être respectés. Donc, ce qui manque, c'est les relais dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des fois des bonnes intentions, d'où le pour, par et avec. Là. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes intentions, mais il faut tout regrouper ça. Et NOLU a ce rôle fédérateur un peu dans le milieu d'amener cette problématique-là et les solutions qu'on amène. Donc, pour revenir à la raison pour laquelle on a fait appel avec Daniel, c'est que, bon, quand on parle d'un ensemble de services et de produits, c'est que pour la population des personnes en situation de handicap, apprendre ou réapprendre la communication sociale, avoir une vie affective et amoureuse, bien, ça prend des professionnels qui les encadrent. Mais qui les encadrent en étant eux-mêmes formés. Donc, on a fondé l'Institut NOLU et on a, à ce moment-là, fait affaire avec des spécialistes comme Daniel pour monter un cours qui a été donné. On donne des journées de formation maintenant et on commence à les...
Ça se passe où?
En fait, nous, on est basé au CRIM. On a des bureaux dans les bureaux du CRIM à Montréal. Donc, on fait ça complètement bimodal.
Les bureaux du CRIM.
Oui, c'est RIM. À chaque fois qu'on dit ça, ça fait, c'est l'heure du CRIM. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de blagues à faire. Non, mais c'est un...
Montréal.
À Montréal, c'est en fait la même bâtisse que l'arrondissement Plateau, Saint-Michel, Villeray, je pense, quelque chose dans le style. Donc... on est en studio, mais on fait ça bimodal. Oui. Les gens ont adoré. C'est en temps réel, à la maison, sur Zoom. Mais il y a des gens en studio.
En présentiel.
En présentiel, oui. Mais pas juste. En tout cas, c'est très, très bien fait. On a rendu ça très dynamique. Ça a été très apprécié. Et on va aller beaucoup plus loin avec ces formations-là. Tu sais, Daniel, quand il parlait du malaise en entreprise... je parlais avec des gens en établissement que je nommerai pas, qui ont ajouté deux questions à leur formulaire de réception quand des gens arrivent chez eux, qui étaient « Est-ce que vous avez quelqu'un de significatif dans votre vie? » Et est-ce que votre vie intime et amoureuse est importante pour vous? Ça a créé un tollé autant auprès des patients que ceux qui travaillent avec eux parce qu'ils n'ont aucun moyen d'y répondre. C'est ça la problématique. Donc, nous, on essaie vraiment d'aller dans la sensibilisation, la formation, mais en même temps, avec un lieu réel pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on peut en parler jusqu'à demain matin, si la majorité des personnes en situation de handicap vont sur Tinder, ils en reviennent très désappointés. Donc, alors, oui. Oui,
même, je pourrais ajouter même que ce que je vois en milieu hospitalier, par exemple, c'est qu'au guichet de service, là où on reçoit les demandes spécifiques, ce qu'on remarque, c'est que le formulaire ne vient pas avec une branche où ce qu'on va dépister les besoins en sexologie, par exemple. Donc, c'est souvent comment ça se passe au niveau du sommeil, comment ça se passe au niveau de l'alimentation, la digestion.
C'est comme un tabou où on oublie.
C'est ça.
On tient pour acquis que les personnes en situation de handicap
n'ont pas de vie sexuelle ou que c'est un dossier qui doit être traité ailleurs de la prise en charge justement.
Alors, justement, parlons-en donc de l'application. Comment ça fonctionne?
Bien, l'application, en fait, c'est une application de rencontre. On ne peut pas complètement réinventer le modèle. Donc, oui, on s'abonne, on ouvre un profil et on peut à ce moment-là communiquer avec les autres personnes. La grande différence, c'est que elle est développée pour permettre aux personnes d'être, en français, c'est de pas avoir crainte de dévoiler leur handicap parce qu'on sait que 90% des personnes en situation de handicap craignent ce moment-là. Donc déjà, quand on fait des premières rencontres, c'est déjà un petit peu stressant pour la majorité des gens. Quand on rajoute cette composante-là du dévoilement, ça devient atroce pour certaines personnes qui
tuent. Anxiogène,
c'est vraiment très difficile. Donc déjà, l'application de lui étant ouverte et inclusive à la diversité, on peut ouvrir s'abonner en tant qu'un homme, une femme, une personne non binaire. Hein. On est en 2024 aujourd'hui, donc ça fait partie de la composition. et s'identifier selon les handicaps qui nous représentent le plus. Et là, à ce moment-là, d'utiliser des fils de recherche pour se rencontrer. Mais on voit que les personnes mettent des photos de eux quand c'est un handicap visible, où on le voit, ils en parlent dans leur définition. C'est vraiment fantastique de voir des gens qui peuvent enfin dire...
S'assumer,
ça m'est arrivé en telle année, je suis comme ça, je cherche quelqu'un. On a des profils, mais vraiment très extraordinaires à lire et à voir.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs jusqu'à maintenant?
Bien, on a dépassé, on est pas loin du 8000 téléchargements maintenant. Donc ça fait boule de neige.
Est-ce qu'il y a eu des coups de foudre?
Bien, en fait, ça, c'est toujours, même à Québec Rencontre, c'était difficile d'aller chercher, de faire passer des témoignages. Mais on sait qu'il y a des amitiés qui se sont formées. Ça, ouais.
Commence par là, des fois, où ça finit aussi. Oui, oui. L'amitié, ça peut être très agréable.
Exactement. Mais en fait, la vie sociale d'une personne en situation de handicap, quand on dit qu'on ouvre les horizons, bien, ça fait partie de tout ça. Ouais. Hein? Ça fait, il y a des gens pour qui, oui, c'est fondamentalement, je me cherche une amoureuse, mais il y en a beaucoup qui veulent... ouvrir les possibilités, parler à des gens, exactement. Donc ça, on le sait, parce qu'on connaît certaines personnes qui sont restées en contact et on sait que ça a vraiment servi.
Est-ce que vous organisez des événements où les personnes en situation de handicap peuvent se rencontrer dans la réalité, là, autour, d'une bonne table, d'un bon repas?
Bon, en fait, on a fait beaucoup d'activités de sensibilisation et c'est la première fois cette année qu'on fait en collaboration avec l'agence Unique Rencontre, qui est en fait un service complémentaire. Et comme on a tous les deux à cœur cet aspect-là de la vie des personnes en situation de handicap, on a décidé d'unir nos efforts. Et cette année, le 17 février, ce samedi, il y aura un événement, une danse organisée pour les personnes en situation de handicap à nouveau, pour, par et avec, pour faire en sorte que il y aura un buffet. On a même invité une chanteuse que j'adore qui s'appelle Liana Adams, qui est elle-même en situation de handicap.
On a déjà reçu ici.
Et qui a une voix extraordinaire.
C'est vrai, très,
vraiment,
très belle voix.
Très, très belle voix. Et ça fait partie du rôle de Nolu de faire rayonner non seulement cet aspect-là, mais tout ce qui...
Est-ce qu'il reste de la place?
Oh mon Dieu, je ne sais pas. On touche pas mal à tout, mais c'est ça qui est extraordinaire parce que tout est en synergie. Et c'est tellement un moteur qui, aujourd'hui, donnait la possibilité des gens de rêver. Moi, je pense à François Rochon qui, un jour, a eu un rêve et qui, aujourd'hui, est une réalité parce que la vie a fait en sorte qu'il a rencontré quelqu'un qui ne l'a pas vu comme quelqu'un avec un handicap, mais comme quelqu'un avec qui le développement de cette entreprise-là était possible. Et ça... que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, ça prend une ouverture dans la société et ça prend des moteurs pour donner la place aux communautés des personnes en situation de handicap.
J'en profite pour saluer M. Rochon. Grâce à lui, Nolu est venu au monde, est arrivé au monde. Et je voulais aussi parler de l'initiation aux enjeux de l'accès à la vie affective, amoureuse et intime des personnes en situation de handicap. L'annoncer, en fait, c'est une formation que vous allez donner, Daniel, le 12 avril.
Oui, c'est ça. Donc, c'est une formation qui comporte trois modules. Un module qui est plus, on va dire, lié à se donner un vocabulaire. C'est forger une structure linguistique où on peut identifier qu'est-ce qu'un handicap, quels sont les différents types de handicap et qu'est-ce que ça implique au quotidien. Donc ça va être comme à peu près les premiers modules. Le deuxième module va plus porter sur les handicaps plus moteurs. Donc on va aller un petit peu naviguer dans cet univers-là. Bien évidemment, on parle d'une journée de formation de 7 heures, là, on ne peut pas tout parler de tous les handicaps, mais on va s'attarder sur les handicaps qu'on rencontre le plus souvent. Puis ensuite, on parle du troisième module, qui est justement celui où j'ai collaboré en fait en tant que collaborateur, qui est lié aux handicaps, on va dire, psychiques. Donc, moi, avec Catherine, là, justement, on avait décidé de donner le nom de neurodivergence parce qu'on englobe plusieurs types de handicaps psychiques, comme par exemple les TSA, le trouble grave du comportement. Voilà. Puis, on parle là, justement des toujours faisant de liens avec la sexualité.
Donc, ça se déroule, cette formation, le 12 avril, je le rappelle. Et le temps file. Ma dernière question serait, est-ce que toutes les personnes handicapées peuvent aspirer à avoir une vie sexuelle satisfaisante?
Ben, ça dépend de la... une vie sexuelle, oui, satisfaisante, ça va dépendre de leur expérience, mais c'est le but de l'exercice, c'est de faire en sorte qu'ils aient la possibilité.
Alors, si on veut encore plus d'informations sur Nulu, l'application, la plateforme, on va où, on fait quoi?
L'endroit où toutes les informations se retrouvent, c'est le site www.nolurencontre.com. Alors, je répète, nolurencontre.com et tout est là.
Catherine Dumas, présidente et cofondatrice de Nulu, et Daniel Gonzalez, sexologue et formateur aussi chez Nulu. Un grand merci, joyeux Saint-Valentin,
beaucoup.
Et à une prochaine, certainement.
Merci.